Dan Mag, T comme Titan.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titan
et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé,
Dominique.
Avec nous au micro et de l'ami fidèle, Laurent, à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ces inspirations de l'instant et son désir imminent.
Nous sommes dans la perspective des élections européennes et municipales. C'est l'opportunité de lire Louis Mermaz s'exprimant dans son ouvrage « Il faut que je vous dise ». Une occasion de nous remettre en questionnement devant toute une vie vouée à la politique et à son pays. Louis Mermaz a été reçu par Majolire de Bourgoin-Jallieu et ses passeurs de mots. Écoutons ce que Louis Mermaz confie à Dominique Molin et à Véronique Boulieu.
C'est à l'occasion de la sortie de son livre « Il faut que je vous dise » que nous avons le plaisir d'accueillir Louis Mermaz à Majolire. Louis Mermaz est bien connu en Isère puisqu'il fut longtemps maire de Vienne de 1971 à 2001, conseiller général de l'Isère de 1976 à 1985 et conseiller régional. Sa carrière politique ne s'est pas arrêtée à notre région puisqu'il a eu également des mandats nationaux, dont 4 en tant que ministre. Il a été aussi sénateur de 2001 à 2011, se consacrant à la défense des droits de l'homme et se battant pour une politique de l'immigration conforme à la tradition française. Louis Mermaz a été également un fidèle lieutenant de François Mitterrand et son engagement politique au Parti Socialiste est bien connu. Alors oui, Louis Mermaz a eu plusieurs vies dans sa vie, comme il se plaît à le dire. Raconter sa vie quand on a été agrégé d'histoire est un exercice qui peut paraître facile, mais est-ce si évident ?
Non, c'est jamais facile de se raconter, surtout si on veut tout dire. Enfin, oui, à peu près tout, quoi. Moi, j'ai écrit ce livre, je le disais à 2 ou 3 personnes qui sont encore ici d'ailleurs, dans l'esprit où on écrit des mémoires d'outre-tombe. Je ne compare pas à Chateaubriand, hein. Mais pour moi, c'est le plus grand écrivain français. Les mémoires d'outre-tombe, c'est un livre de chevet, je lis, je relis, etc. Et mon souci, c'était de sortir de bien sûr, je l'ai déjà dit devant d'autres auditoires, de la langue de bois. Lorsqu'on parle de soi, on idéalise, je me critique dans ce livre. Puis alors, lorsqu'on parle des gens qu'on a fréquentés sur le plan politique, même quand ils sont encore vivants, on leur sert une sorte d'éloge funèbre. Tout est parfait, ils ont tout réussi, ils ont des qualités, c'est absurde. La vie n'est pas comme ça. C'est pas tout noir, tout blanc, tout est compliqué. Bon, j'ai essayé de restituer cela.
Alors Dominique Molin, passeur de mots, s'est plongé dans vos mémoires et on a certainement ressenti la quintessence. Alors à vous Dominique.
Voilà, j'ai pas l'habitude de démarrer un entretien comme ça, mais je dois dire que c'est un très beau livre. C'est un beau livre parce que c'est un livre de rencontres, très nombreuses rencontres. C'est un livre où l'histoire affleure, très proche, parfois familière. C'est un livre de conviction, bien sûr. Et puis... j'ai beaucoup aimé ces moments, et ils sont nombreux, où le récit des faits laisse la place à l'émotion, à la poésie, au sourire aussi. Alors je vais commencer par le titre, un deuxième compliment, je vous promets que c'est le dernier. Il faut que je vous dise. Je trouve que c'est un très beau titre, presque musical. Il faut que je vous dise. J'aimerais que vous nous expliquiez ce « il faut ». C'est quoi ? C'est la nécessité de parler ? Mais il faut que je vous dise, il y a parlé et puis il y a un petit peu sur le ton de la confidence.
Oui, c'est tout à fait cela. Lorsque j'ai choisi ce titre, mon épouse Annie Mermaz a commencé de fredonner une chanson de Boris Vian. Alors je me suis dit, je vais t'accuser de plagiat. J'en ai parlé à Odile Jacob, ça n'a aucune importance. Puis j'ai été très rassuré quand... en me servant d'Internet, j'ai vu qu'il y avait une marque de vêtements qui s'appelait aussi « Il faut que je vous dise ». Et finalement, « Il faut que je vous dise » a été désormais utilisé, est tellement dans la tête de tant de personnes que c'est très répandu. Je me suis dit « Bon, je suis désormais à l'abri ». Mais je n'avais pas pensé à Boris Vian, que j'admire beaucoup, lorsque j'avais choisi ce titre. Mais c'était peut-être inconsciemment une réminiscence, bien que je sois moins musicien que mon épouse.
Un événement vous a marqué, la fin de la Seconde Guerre mondiale approche. Les Américains, l'armistice a été signé, les Américains larguent une bombe atomique au-dessus d'Hiroshima, nous sommes donc en août 1945, et vous dites « J'eus soudain un sentiment d'épouvante, puis la conscience que l'ordre du monde changeait, c'en était fini de toute épopée historique, de toute conquête pour la France. Désormais, un pays qui n'était pas le mien pouvait imposer sa loi à quiconque. L'histoire de France allait s'arrêter, Je ressentais cela avec frayeur. Les peuples allaient perdre leur liberté. C'est l'historien qui parle.
Ah, c'est un souvenir tout à fait vivace de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui s'est construit par la suite. Je me vois encore montant les escaliers d'une pharmacie qui était dans un canton normand, à la Ferté-Fresnel, près de l'Aigle, là, dans l'Orne. Et j'ouvrais à ce moment-là Ouest-France. Et j'étais en train de découvrir cela, je me suis arrêté, j'ai lu ça, et c'est vrai, j'ai eu une sensation terrible. Et cette sensation, nous l'avons tous. Enfin, quand on voit ce qui pourrait encore se passer, quand on voit ce que le nucléaire vient de donner à Fukushima, on a vraiment là une épée de Damoclès, pire qu'une épée de Damoclès sur la tête. Donc c'est un immense problème.
Vous parlez longuement de vos études, vos professeurs. Souvenir est intact. Quand vous évoquez par exemple votre cours de philo, vous écrivez une très belle phrase. Tout devenait lumineux, beau, élégant. Nous étions sous le charme, sans voir le temps passer, transportés dans un autre monde où les contingences de la vie s'estompaient. Ce que le professeur annonçait devenait essentiel, effaçait le reste et le rendait insignifiant. Le prof, c'est Jean Toussaint de Santy, par ailleurs militant au Parti communiste français.
Jean Toussaint de Santy, ça a été pour nous, pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir comme professeur en classe de philo ici à la Canale, près de Paris, une chance extraordinaire. Il a été qu'une année d'ailleurs dans l'enseignement secondaire. À cette époque-là, les agrégés se trouvaient très vite propulsés dans ces années-là dans le supérieur. Et Jean Toussaint de Santy était communiste. Mais rien dans sa philosophie ne faisait sentir qu'il avait telle ou telle opinion. Il avait un respect de la laïcité extraordinaire. Il nous a jamais fait, je le dis d'ailleurs, et je crois que ceux qui n'ont pas encore lu seront intéressés par ça, il nous a jamais fait l'histoire de la philosophie, les sensations, les perceptions, la morale, le ceci, le ça. Il nous a raconté l'histoire de la philosophie d'Épictète à Husserl, comme ça, au cours des... On a tous eu des notes extraordinaires au bac. On voulait tous devenir prof de philo à la fin. Puis bon, on a dû bouger parfois. Et moi, je l'ai revu à la fin de sa vie, tout à fait par hasard. Il faisait la queue devant un cinéma à Paris, dans le quartier de l'Odéon, là, en plein centre de Paris. Je n'osais pas l'aborder. Ma femme me dit, mais si, va lui dire bonjour. Et on s'est retrouvés. Et pendant les 10 dernières années de sa vie, j'ai eu la chance de le voir beaucoup. Et pour voir l'ouverture de son esprit, il avait quitté le Parti communiste, comme beaucoup d'intellectuels, après la peste, etc. Il a eu un jour cette phrase magnifique. Il m'a dit, dans le fond... Il était un très grand connaisseur de Spinoza. Il me dit, dans le fond, nous sommes tous des coadjuteurs de Dieu. C'est extraordinaire, de la part d'un ancien communiste.
À propos de justement...
Enfin, il y a des communistes qui peuvent être croyants, je pense à ça d'un seul coup. Je viens de lire un bouquin que je vous recommande, un bouquin sur la mort de Jean Kelevitch. Je ne dirais pas qu'on a envie de mourir, mais la mort ne fait plus peur. Et alors Jean Kelevitch, c'est extraordinaire, il dit, je comprends qu'il y ait des agnostiques. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir des athées? Comment est-ce qu'on peut savoir décréter que Dieu n'existe pas? On peut douter. Et alors il dit d'ailleurs, il n'y a rien qui m'énerve plus, moi qui ne pratique aucune religion, quand on me dit que je ne suis pas croyant. Il dit, il y a des athées qui se comportent comme des sectaires. Les athées, c'est parfois une secte. De la part de Jean Kelevitch, qui n'est pas du tout un bigot de quoi que ce soit, j'ai trouvé cette formulation extraordinaire. Ça m'a fait penser à Jean Toussaint de Santy.
1954, vous êtes étudiant à la Sorbonne, vous vous engagez dans le débat de plus en plus animé sur l'Union française, l'ensemble des colonies de l'ex-empire colonial français, la question du Vietnam, Madagascar, le Maroc, etc., et bien sûr l'Algérie. Vous aviez un rêve ?
Absolument. Le hasard fait que je ne l'évoquais pas plus tard que hier, devant l'association Coup de Soleil qu'anime Georges Morin, que les Isérois connaissent, qui est toujours d'ailleurs adjoint au maire de Gières, et où nous avions un débat avec Benjamin Stora et Marie-Christine Saragosse. Ils sont tous nés en Algérie. Hein. Bon, moi j'ai l'énorme regret qu'on ait échoué dans la construction de l'Union française. C'était d'ailleurs ça qui m'a tout de suite rapproché de François Mitterrand. Dès les années 50, 52, 53, avant que je le connaisse, la première fois que je l'ai rencontré, il faisait une conférence C'était près de la Maison du Maroc, cité universitaire, aux frontières de l'Union française. Il présentait son bouquin, on était en 54. Et vraiment, on a manqué toute une série d'occasions. Pour ne parler que de l'Algérie, si on avait fait toutes les réformes qui ont été évoquées dès Napoléon III, sous le Front populaire, après la libération, si on avait bougé, il fut un temps où Ferhat Abbas disait, qui fut un des leaders après de l'indépendance, « J'ai interrogé l'histoire et je n'ai jamais trouvé dans aucun cimetière la nation algérienne. » Mais il y a eu un déclic atroce, le massacre de Sétif. Dans une émeute, une centaine d'Européens ont été massacrés. Mais pourquoi ont-ils été massacrés? Parce qu'il y avait une manifestation d'Algériens qui demandait l'égalité des droits. Il faut voir la part qu'ils avaient pris à la guerre de 14-18 et encore en 39-45. Et il y a un jeune qui a brandi un drapeau algérien, un drapeau vert, etc. Un commissaire de police l'a abattu. Et alors là, il y a eu une explosion et il y a eu quelques Européens massacrés, effectivement. Mais il faut savoir qu'au lendemain de l'anniversaire du 8 mai 1945, vous voyez ce que ça représente, il y a eu une répression qui a duré 2 mois. L'aviation et la marine ont voulu faire un exemple. On a tué 15 000 Algériens. Et là, Ferhat Abbas, le même dont je parlais, a dit « Ce jour-là, j'ai senti que c'était terminé. » Et on a là le général qui a fait un rapport, il s'appelle Hubert, H-U-B-E-R, a dit 1500 morts. En fait, il y en a eu 15 000. Il a fait un rapport, il a dit « On aura la paix pour... » C'est atroce. Il a dit « On aura la paix pour 10 ans. » 45, 55, 1er novembre 1954, l'insurrection. Bon, voilà. Aujourd'hui, si on avait fait les réformes, je ne dis pas que l'Algérie serait la République française, mais il y aura encore tous les Européens qui seraient là-bas. Et on aurait de part et d'autre de la Méditerranée quand même des relations plus qu'étroites, une association, etc. Et l'historien de l'indépendance de l'Algérie, Benjamin Stora, qui est né à Constantine, etc., qui est parti, il avait 12 ans quand les pieds noirs sont tous partis. Lui, il n'était pas pieds noirs parce que les juifs en Algérie étaient là depuis des siècles, depuis l'Empire ottoman, etc. Je fais un cours d'histoire, excusez-moi. Nous disait, et je termine, Benjamin Stora disait, il faut faire en sorte qu'un jour on se retrouve de part et d'autre de la Méditerranée. Et c'est pourquoi moi je pense qu'il faut pratiquer une politique d'immigration qui soit quand même autrement intelligente que celle qu'on pratique depuis tant d'années, peut-être encore aujourd'hui.
1962, c'est la fin de l'année scolaire. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée La Canale, au Mans. Et le proviseur vous demande de faire le discours clôturant la distribution des prix, dans lequel vous célébrez entre autres le rôle de la France au temps de Napoléon. Vous expédiez une copie de ce discours à François Mitterrand, qui n'a pas l'air d'apprécier. Et est-ce que Napoléon reste un personnage qui compte pour la France en 2013?
Très certainement. Moi, j'ai une grande admiration de Napoléon, qui s'explique notamment par le fait que, pendant l'occupation, j'avais de 8 à 12 ans. Alors, c'était quand même une sacrée revanche. On était occupés, Napoléon. Je me souviens d'avoir été heurté lorsque Hitler a fait rapatrier d'Autriche, de Schönbrunn, à Paris, aux Invalides, la dépouille du duc de Reichstadt, le fils de Napoléon, que les partisans de Napoléon ont toujours appelé Napoléon II. Bon, je me dis quand même, c'est horrible Hitler, de quoi il se mêle, etc. Napoléon a été un personnage extraordinaire. Alors vous me direz, oui, il a renversé, vous avez été président de l'Assemblée, il a renversé un Parlement, les 500, ils étaient très corrompus sous le Directoire, il faut voir ce que c'était. Hein. Bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toujours, à l'Assemblée nationale et au Sénat, une garde républicaine qui rend les armes au président. Bon, il ne pourrait pas faire grand-chose, mais ça veut dire que l'Assemblée et le Sénat assurent leur propre protection. C'est un symbole qui est fort. Mais Napoléon a été l'accoucheur des révolutions dans toute l'Europe. Et s'il n'avait pas perdu la tête, parce que c'était un peu ça, et s'il n'avait pas entrepris cette absurde campagne de Russie, alors qu'il était l'ami du tsar Alexandre, ils étaient amis tous les deux, ben, ça serait quand même mieux terminé. Et aujourd'hui, bah oui, on peut rêver. L'Europe serait différente et le rôle de la France en Europe serait différent. Bonaparte, Napoléon ont joué un rôle extraordinaire. Puis Napoléon, à la fin de sa vie, il est devenu fou. Attaquer la Russie dans les conditions où il l'a fait, lui qui était un stratège, un général extraordinaire, à entreprendre une campagne à la veille de l'hiver, enfin bon, tout ça est ahurissant. Ceci dit,
n'idéalisons pas Napoléon. Je dis que tout n'est pas rouge, tout n'est pas noir ou blanc. Napoléon a aussi été un dictateur. Hein. Bon, on ne peut pas approuver tout ce qu'il a fait, loin de là. Personne n'est parfait dans ce monde. Mais enfin, c'est un personnage très important.
FM 97.1, en entretien avec Louis Mermaz, nous venons d'entendre Pablo Casals au violoncelle dans Sarabande de Johannes Sebastian Bach de l'album Les six suites pour violoncelle.
Vous l'avez brièvement évoqué, et vous avez une phrase là qui dit très bien un petit peu comment on pouvait le ressentir au moment de l'occupation. Mon admiration pour l'empereur avait survécu au temps de l'occupation, où son épopée avait constitué, à mes yeux, une sorte de revanche posthume. Revanche posthume, c'est fort. L'idée de penser à Napoléon...
Bah écoutez, on est envahi par les Allemands, on est occupé, et nous sommes les héritiers d'une époque où la France était répandue à travers toute l'Europe. Moi, j'ai un souvenir très vivace avec ma mère. On était dans une maison qu'on a près de Paris, qu'on a toujours... Et on était dans un petit café de village, là. Et c'était le jour de l'opération où Hitler envahissait la Pologne. Et j'entends encore ma mère qui crie « Ils sont fichus !» Elle pensait à Napoléon qui avait été fichu lorsqu'il avait envahi la Russie. Et là aussi, c'était l'horrible personnage de l'époque qui allait se flanquer dans le même piège. Et c'est ce qui s'est passé.
Avant de devenir un homme politique de tout premier rang, vous subissez plusieurs échecs électoraux. Nous sommes en 1956. Vous essayez de vous implanter dans l'Orne. Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on a des convictions et que les électeurs ne vous suivent pas ?
D'abord, j'ai été plutôt bien suivi. Au moment du 2 janvier 1956, j'ai failli être élu. À cause des apparentements. Alors, plus personne ne se souvient de ce que c'est que les apparentements, les plus anciens. C'est-à-dire que des partis pouvaient s'associer, et si le bloc qu'ils constituaient avait la majorité absolue, ils se répartissaient les sièges entre eux. On arrivait à cette aberration que vous avez des gens qui pouvaient être élus avec 10 000 voix, et puis d'autres qui étaient en dehors de l'apparentement, c'est-à-dire la coalition qui, avec 20 000 voix, restait sur le tapis. Ça a beaucoup contribué d'ailleurs à la déconfiture de la 4e République. Bon, moi, j'ai failli bénéficier des apparentements, mais je l'ai rompu, mon apparentement, parce que j'étais apparenté avec un républicain social, la Républica Sociale, le maire d'Alençon, Hébert. les républicains sociaux, c'était Chaban-Delmas. Ils étaient dans le front républicain, les gaullistes, comme Chaban-Delmas. Et alors, à peine avions-nous signé l'apparentement, qui m'attaque. Moi, j'étais débutant, aujourd'hui, je n'aurais pas changé d'idée. Être apparenté puis se faire attaquer par quelqu'un avec qui on est allié, j'ai rompu l'apparentement. Mais si j'avais maintenu l'apparentement, j'aurais peut-être été élu. J'ai fait beaucoup de voix. Et alors, le préfet de l'époque m'a dit « Oh oui, vous avez fait beaucoup de voix, mais parce qu'il n'y avait pas de candidat poujadiste dans l'ordre. » Et c'est possible que les poujadistes, face à ces vieux de la vieille, la 4e République, aient dit « Ce jeune, dans le fond, c'est peut-être pas tout à fait nos idées, mais au moins, on va voter pour lui. » C'est possible que j'ai eu des voix poujadistes sans les demander et en combattant leurs idées. D'ailleurs, je vous dirais que récemment, Erwan Binet, qui a été avec moi mon assistant, a été élu aux dernières élections législatives, alors que sur le papier, il était entièrement écrasé par le député sortant. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait un discours qui n'a pas provoqué son élection, parce qu'aujourd'hui, dans les assemblées, contrairement au passé, on est entre nous. Avant, on avait les contradicteurs. Tu te souviens, Robert, hein ? Bon. C'était des réunions vivantes. Aujourd'hui, on est entre nous dans les réunions. Bon, alors là, on devait être entre nous. Mais moi, j'avais fait la démonstration qui s'est produite, qui était la suivante. Je disais, il faut que les gens de gauche rament, fassent le nécessaire, viennent nombreux voter. Quant aux gens qui se sont abstenus, il faut qu'ils se bougent. S'ils sont abstenus, c'est qu'ils ne sont pas contents. Donc, c'était le système Sarkozy à l'époque. Il faut aussi qu'ils viennent. Et puis, je me suis dit, les gens du Front National, ils ont voté pour un candidat d'un parti que j'exègre, qui est horrible. Mais eux ne sont pas forcément des affreux. Il faut qu'ils réfléchissent. Puisqu'ils sont malheureux, puisqu'ils se révoltent, ils ne vont quand même pas aller voter pour un sortant. Donc ou ils restent chez eux, ou ils viennent voter pour le candidat socialiste. Ce n'est pas mon discours qui a changé les choses, mais sur le papier, c'est ce qui s'est produit. Car Erwan Binet a fait une campagne claire, nette et courageuse, sans cacher aucune de ses opinions, malgré la mathématique du premier tour, a été élu. Ah, il a été élu, il n'a pas fait des milliers de voix d'avance, mais il a été élu. Et comme il travaille beaucoup, j'espère que ça continuera.
Alors votre mère tient un grand rôle dans l'organisation de votre première campagne électorale et puis d'un certain nombre de celles qui ont suivi. Vous accepteriez d'en parler ?
Absolument. Ma mère n'a pas pu épouser mon père, parce que mon père appartenait à une vieille famille bretonne. Il était le seul de gauche dans la famille. Vous savez, ces vieux bretons, ils voulaient bien servir la France en étant dans la marine ou dans l'infanterie ou dans la cavalerie, mais la République, les vieilles familles, ils n'étaient pas encore complètement acclimatés. Il faut dire qu'ils avaient mis du temps. Et lui, il était l'homme de gauche, il était de la gauche radicale. La gauche radicale dans les Côtes d'Armor en 1930, et même avant, puisqu'il a été 22 ans parlementaire. Et ma mère l'a rencontré, toute la vie est faite de hasard. Elle s'était engagée pour faire le tri du courrier postal des soldats de la guerre 14-18. Et puis par une voisine qui tapait les poèmes d'un parlementaire des Côtes d'Armor, elle a rencontré mon père et puis elle a commencé à faire du courrier pour elle. Puis elle est devenue sa collaboratrice, sa compagne, etc. Moi, j'ai réfléchi depuis à ce qui s'était passé. C'est vrai que dans la Bretagne de l'époque, est un homme de gauche et puis en plus divorcé. Bon, alors donc, il ne s'est rien passé. Mais ma mère a été la collaboratrice essentielle de mon père. Elle a fait beaucoup pour lui. Et après, elle a fait la même chose pour moi. Ça a continué. Et c'est dans mes campagnes électorales de l'Orne. Vous me parlez de l'Orne. Pourquoi j'étais candidat dans l'Orne ? Parce qu'on avait une maison. Je débutais. J'avais fait des chroniques dans un journal local depuis fort longtemps. Et j'avais pas besoin de lire des sondages pour savoir que l'Orne n'était pas de gauche. D'ailleurs, un jour, un directeur de l'Institut des sondages, Lancelot, me dit « Mais pourquoi vous êtes présenté dans l'Orne ? Vous auriez dû faire des sondages. » Je lui dis « Il n'y avait pas besoin de sondages pour savoir que l'Orne était à droite. » Encore qu'il y a eu un député socialiste en 81, Flair de l'Orne. Il était socialiste, mais il faut dire qu'il était professeur dans une école privée. Alors vous voyez, il affolait plus les gens là-bas. Il était à la fois socialiste et professeur dans une école privée. Bon. Donc, ma mère m'a beaucoup aidé dans l'Orne, et puis elle m'a aidé au début dans l'Isère. Elle était dans l'Isère, Robert Chanov, d'Hérieux, aujourd'hui de Bourgoin-Jallieu, l'a connu. Jusqu'à la fin de sa vie, elle m'a beaucoup aidé. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui a autant la tête politique qu'elle, et qui m'aide beaucoup, qui m'a toujours aidé beaucoup, qui se sont bien entendues toutes les deux. Voilà, mais ça a été pour moi un grand soutien.
On est frappé quand on lit ce livre, on devrait le savoir, mais à quel point la vie d'un homme politique, c'est une quantité ahurissante de déplacements. Vous n'arrêtez pas de bouger. Vous arrivez à Lyon et vous recevez un coup de téléphone, il faut retourner à Paris. C'est très impressionnant.
Alors, le plus fort, c'est que je bouge encore plus maintenant. J'ai dit un jour, je rencontre Odile Jacob dans la rue, je la connaissais un peu, mais bon, pas tellement, mais un peu quand même. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je dis, j'écris des mémoires, ben, venez me voir. Je dis, oui, mais vous faites des livres qui ne sont pas très gros. Elle me dit, mais venez me voir. Ben oui, et c'est pour ça que c'est en caractère Bible, en papier Bible, en caractère fin, parce qu'il faudra faire deux tomes. Elle me dit, le deuxième tome, on ne le vend jamais, alors il faut mieux en faire un seul. Moi, je lui avais dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de laisser une trace de ce que j'ai connu, ce que j'ai vu, et que ce soit à la Bibliothèque nationale au moins. Mais elle me dit, moi, il faut que j'en vende quand même quelques-uns. Et puis, je me suis pris au jeu, et je suis en train de faire une espèce de tour de France. Donc, vous voyez, je continue de bouger. Mais c'est vrai que j'ai fait le tour de la France, et je suis content depuis le temps, pas très longtemps, de pouvoir visiter des régions où j'allais. Je suis allé presque partout, mais j'arrivais à la veille. Oui, j'arrivais pour faire une réunion dans l'après-midi. Je faisais un discours, un débat, etc. à 18h. Je couchais chez un militant ou dans un petit hôtel, puis je repartais le lendemain matin. C'est très frustrant. Par exemple, j'ai attendu bien des années avant de connaître Toulouse. Mulhouse. Mais Toulouse, c'est pareil. Mulhouse et la campagne de la Haute-Alsace. Parce que j'étais allé à Mulhouse, mais le temps d'un dîner avec Bockel, qui alors était socialiste, une réunion, on repart le lendemain matin. Voilà, oui, j'ai fait le tour de France.
J'avais jamais imaginé qu'avoir une vie politique comme ça, se porter candidat à des élections, ça pouvait comporter certains risques. Si je vous ai bien lu, une traction, une aronde, une deux chevaux ne s'en sont pas remises. C'est pas vous qui conduisiez?
Ah si.
C'est vous qui conduisiez?
Ben, la ronde, je l'avais achetée d'occasion à mon frère. Elle tombait souvent en panne et mon suppléant Jean Marcel, un personnage extraordinaire d'une intelligence politique qui habitait Cour Lafayette dans le vieux quartier ouvrier de Vienne, etc., marchand de vin. Il vendait le vin au verre, à la bouteille et comme grossiste, non pas à la barrique, comme demi-grossiste. Il se rendait dans toutes les communes voisines, etc., un agent électoral formidable, d'une insistance politique formidable. On avait cette aronde qui de temps en temps tombait en panne. Et j'ai jamais compris comment elle repartait. Je donnais un coup de marteau sur le capot. Ça a duré un certain temps jusqu'au jour où ma femme fait visiter le quartier de Lafayette à un journaliste du Nouvel Observateur, René Bachmann, et la voiture se met à fumer. Et Bachmann m'a-t-elle dit, moi je n'étais pas dans la voiture, Bachmann a dit, il faut sortir de là. Ça a été la fin de la ronde. Voilà, bon, c'est une des voitures. On a toujours, nous, on garde nos voitures jusqu'à la fin. Les voitures, vous savez, où il faut les vendre tout de suite ou les garder jusqu'au bout. On descendait au marché de Vienne dans la R5 et quand on allait à Autovision, c'était très amusant. Ah, comment va la Super R5, disait, parce que ça s'appelait Super R5. Ben, la Super R5, elle a dû avoir 120 000 km, quoi, mais elle n'allait pas très loin. C'était la voiture pour aller au marché ou autour de Vienne.
Donc, printemps 1966, François Mitterrand vous convoque en même temps que Georges Filliot. Il vous propose à tous les deux de choisir, en vue des législatives de 67, entre la circonscription de Vienne-Nord et celle de Romans-sur-Isère. Filliot choisit la Drôme. Et vous, l'Isère, à l'époque, la circonscription de Vienne-Nord incluait un certain nombre de communes qui maintenant sont rattachées au Rhône, 23, si j'ai bien lu. C'est un gros changement, ça. C'était important. Ces 23 villes qui, à ce moment-là, appartenaient à...
Ah ben, ces 23 villes étaient extraordinaires, parce que c'était des villes, je cite très rapidement, comme Mézieux, comme Saint-Priest, comme Saint-Symphorien-d'Ozon, comme Faisin. C'était des villes qui votaient comme Décines. C'était des villes qui votaient très à gauche. C'était la banlieue ouvrière de Lyon. Bon, et alors, c'est quand ces villes ont été rattachées, je savais qu'elles seraient rattachées au département du Rhône, puisqu'on a créé la communauté urbaine de Lyon en 1968 et qu'il fallait là que toutes les communes soient dans le même département que la communauté urbaine. Donc je me suis retrouvé avec une autre circonscription et là, c'est là que je me suis retrouvé avec la ville nouvelle qui naissait et la ville de Bourgoin-Jallieu. Et je dois beaucoup à Pierre Houdot, le maire de Bourgoin-Jallieu, qui avait été candidat en 1967 dans la région de Bourgoin-Jallieu, la Tour du Pin contre le député Catin Bazin, d'avoir accepté d'être mon suppléant. Il aurait pu vouloir être le titulaire. Il avait une élégance extraordinaire. Il m'a dit, non, Louis, il faut que tu sois le titulaire, je serai ton suppléant. Il m'a aidé formidablement. C'est extraordinaire. Je n'aurais peut-être pas été élu sans Pierre Houdot. Puis alors après, il y a encore eu un nouveau découpage et je me suis retrouvé dans une circonscription complètement différente qui comportait Beaurepaire et puis tout le canton de Roussillon. représentait une région qui n'a cessé de bouger depuis Bourgoin-Jallieu jusqu'à Roussillon, en passant par Décines et Saint-Priest. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est pour ça que mon livre devrait arriver à ce vent. Par exemple, je suis très heureux de rencontrer tant de visages que j'ai connus, de personnes que j'ai beaucoup aimées. Voilà, donc ça a été toujours une sorte de errance politique très sympathique, très, très efficace, j'espère.
Pierre Oudot, c'est une amitié.
Ah, Pierre Oudot, c'est une amitié. Vous savez, en politique, quand on dit c'est un ami politique, ça veut dire que, bon, ça va, ça dure ce que ça dure. Un ami politique, vous savez, l'histoire de l'ami de 30 ans. Bon, mais Pierre Oudot, c'était un ami, toute politique mise à part. J'ai conservé quelques amis qui avaient été dans la politique avec moi, mais on les compte sur le doigt de la main. Je pense à Pierre Jacques, d'un seul coup, comme ça, qui est un bonhomme extraordinaire. Mais Pierre Oudot était un ami extraordinaire. Quand il venait à la maison, à Vienne, il s'occupait des enfants. D'habitude, les hommes politiques, ils voient pas les enfants. Il leur parlait. Il arrivait avec une poigne de Bourgoin-Jallieu. Et se dirait, ah oui, Pierre Oudot, c'était quelqu'un de formidable.
Vous racontez les réunions de la Fédération socialiste qui se déroulent assez souvent, régulièrement, à la Côte-Saint-André. Et vous dites une chose que, si on ne vous a pas lu, on n'imaginerait pas. Les gens de Grenoble qui arrivent, les intellectuels, les ingénieurs, les médecins, etc., donc qui sont habitués à parler en public. Et puis, il y a les gens du Nord-Isère qui sont peut-être un petit peu, qui se sentent un petit peu méprisés.
Pas méprisés, non, mais ils avaient moins le verbe. Je vois des camarades... qui sont ici et qui ont vécu ces réunions. On se réunissait à la Côte-Saint-André. On avait un secret, nous, les Viennois, c'est qu'on cassait la croûte avant la réunion. Les réunions commençaient à 19h et se terminaient à 1h du matin. Et à 1h du matin, les Grenoblois, tu te souviens, les Grenoblois à 1h du matin, surtout qu'ils avaient fait beaucoup de discours. Ils tenaient plus le choc, là. Et quand on passait au vote, c'était terminé. Je faisais attention, il faut toujours veiller au grain, tant que... Il n'y avait pas d'incompatibilité, j'étais premier secrétaire fédéral, ton lointain prédécesseur Christophe Bouvier. Puis après, on a eu Philippe Vallat, on a eu André Valigny, etc. Donc, on tenait la maison, parce que la politique, il faut tenir la maison. Hein. Bon, on la tenait. Et c'est vrai que les débats étaient assez étonnants, parce que les Grenoblois, mais j'en ai revu depuis, on est très copains, hein. Alors on n'est plus des amis politiques. On n'a jamais été des amis politiques, mais on est devenus des vrais amis, c'est quand même mieux. Par exemple, Michel Destot n'a jamais été un casse-pied dans les réunions. Michel Destot m'a téléphoné avant d'annoncer qu'il ne se représentait pas. Il a eu ce mot très clair, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a fait chaud au cœur. Il m'a dit, on n'a jamais été dans le même courant politique, mais tu sais qu'on a toujours été très amis, et c'est vrai. Demain, j'ai le plaisir de le retrouver à Grenoble. Ces réunions de la Côte-Saint-André, c'était extraordinaire parce que je vais raconter juste une anecdote. Elle est dans le bouquin. Payan, grand esprit, normal sup. Il a terminé comme le directeur de l'enseignement supérieur, c'est pas bien. Il a été à la régie Renault, c'était la régie Renault, l'homme qui dirigeait le laboratoire de recherche. Donc, grand esprit. Et alors, il avait voulu qu'on fasse un règlement de la fédération. On a fait ce règlement à Saint-Jean-de-Bournay. On y a passé presque une nuit. Alors, l'état-major, tout courant confondu, comme on dit au Parti socialiste, toutes les sensibilités étaient derrière le rideau de la scène de théâtre, et on travaillait. Puis alors, les militants s'impatientaient, ça n'en finissait pas. Bon, finalement, on a accouché d'un texte. Tenez-vous bien, je l'ai perdu. Je l'ai remporté, je l'ai perdu. Je l'ai retrouvé 25 ans après. Je l'ai à nouveau rangé, je ne saurais pas vous dire où il est. Et toutes les réunions suivantes, Payan disait, on voudrait bien voir le règlement intérieur. Il était persuadé que je ne voulais pas le sortir. Et moi, je ne savais plus où il était. C'était difficile de dire, j'ai perdu la Constitution. Voilà, bon, ça fait des souvenirs. C'est comme ça, quoi, la vie politique.
Couleur FM 97.1, un entretien avec Louis Mermaz à la librairie Majolire à Bourgoin-Jallieu. Nous avons entendu Aldo Ciccolini au piano dans Pastoral de l'album Les années de pèlerinage dans la première année en Suisse de Liszt.
1977, vous êtes réélu maire de Vienne, vous présidez le conseil général de l'Isère. On s'apprête à mettre en route le chantier du surrégénérateur à Crémalville. Il y a des manifestations, deux jours, 30 000, beaucoup de jeunes. Il y a un tir tendu de lacrymogène. Il y a un jeune qui est tué.
Michalon.
Il y a quelques jeunes qui sont arrêtés, emmenés par la police. Entre-temps, vous êtes revenu à Grenoble. Et quand vous apprenez ça, vous faites demi-tour et vous retournez à Bourgoin-Jallieu au tribunal pour être témoin.
Oui, pour être témoin, témoin. Oui.
Oui, oui.
Bah, écoute, j'ai trouvé scandaleux qu'on arrête des jeunes gens et j'ai toujours l'impression qu'on les a attrapés pour faire un exemple. Pourquoi ceux-là plus que d'autres ? Cette manifestation n'a jamais été violente. J'ai pas vu de violence. Le préfet de l'époque, René Janin, était un dur. René Janin, c'était pas n'importe qui. De Gaulle l'avait nommé préfet de police d'Alger au moment des Nuits Bleues d'Alger. C'était un dur. Mais dans l'Isère, il n'y avait pas la façon de se conduire ainsi. Il aimait beaucoup le whisky, comme il s'appelait René Janin, on l'appelait Janin Walker. Il est mort maintenant, mais bon, c'était pas un mauvais cheval. Il est très responsable de la dureté. Il s'était installé à la Tour du Pin. Enfin, la répression était très brutale. Alors moi, je suis allé témoigner pour ces jeunes. Ils ont quand même été condamnés à une légère peine de prison ferme. Ils ne sont pas restés longtemps en prison, mais je les vois encore passer du tribunal. Le tribunal à Bourgoin-Jallieu et la prison étaient continues. Je les vois encore passer du tribunal, des monotomas. Enfin, c'était un spectacle affreux.
François Mitterrand se présente pour la première fois aux élections présidentielles. Vous semblez dire qu'il était quasiment sûr d'être battu.
Ah, lui, oui.
Oui.
Et quand on lui a dit qu'on était déçus, Ernu, moi, Fillou, il nous regarde et dit « Mais quelle erreur de jugement qu'on ait pu penser qu'il pouvait être élu ben, !» On était pris dans l'atmosphère de la campagne. Il n'a jamais pensé qu'il serait élu en 65, non. Mais il n'allait pas le dire aux électeurs, évidemment. S'il avait fait des réunions en disant « Je ne vais pas être élu. » Bon, mais il n'a jamais pensé qu'il pouvait être élu en 65, non. Il a même été étonné de mettre De Gaulle en ballotage. Il faut dire qu'il y a été aidé par la présence de Le Canuet. S'il n'y avait pas eu Le Canuet, De Gaulle n'aurait pas été mis en ballotage. C'est évident, il n'est pas allié de Le Canuet, mais enfin, la présence de Le Canuet qui a fait un bon résultat a contribué au ballotage de De Gaulle, c'est évident.
Les années passent, quelques jours après l'élection cette fois, de François Mitterrand, 1981, vous lui téléphonez pour lui dire que vous aimeriez bien faire partie de son gouvernement. dans quel état d'esprit êtes-vous à ce moment-là ?
Oh ben je me dis, je suis depuis tellement longtemps avec lui, que dans le fond, qu'il me nomme ou qu'il me nomme pas, il est sûr que je vais pas changer de bord ni m'éloigner de lui, et c'est évident. Si j'avais pas été nommé ministre, bon, bah, j'avais envie d'être ministre, oui, c'est vrai, bah, je vais téléphoner pour lui dire. Et alors, c'est très amusant parce que il me dit, ne vous inquiétez pas, j'ai tout dans la tête. Voilà, bah, il faudra venir me voir. Et puis, quelques jours après, il m'invite avec Édith Cresson à déjeuner rue de Bièvre. On parle de tout sauf de ce qu'on va devenir. Pas tellement de politique, parce qu'avec Mitterrand, quand on se retrouvait avec quelques-uns, il y avait toujours un long moment où on ne parlait pas politique. Il attendait. Il parlait d'autres choses, de littérature, d'événements, de sport. Il était un passionné de football. Moi, ben, je ne connaissais rien, mais enfin, lui, le football était très fort. Un jour, il va à Saint-Étienne pour faire une réunion. Après, il s'arrête au bistrot. Il n'allait pas parler aux gens politiques. Il leur parle du match. Les matchs de Saint-Étienne, c'est la grande époque de Saint-Étienne. Il conquiert les gens par ça. On a toujours dit qu'on conquérait les gens en leur parlant d'autre chose que de ce pourquoi ils vous attendent. Quand vous entrez dans une ferme, si vous commencez par leur parler politique, vous passez pour un hurluberlu. Il faut se renseigner sur l'agriculture, sur le temps qu'il fait, etc. Puis c'est à la fin, éventuellement, qu'on dit quelques mots. Ben Mitterrand, il était formidable, il leur a parlé de football. Et les Stéphanois que j'ai revus après m'ont dit, les gars, ils n'en revenaient pas. Mais ils étaient très forts, ils connaissaient la carrière. Ce n'était pas l'époque où il y avait des échanges comme ça, où les footballeurs valaient des millions. Bon, ça bougeait. Pas tellement. C'était très régional. Et il avait une connaissance du foot extraordinaire.
Donc, vous apprenez que vous êtes ministre de l'équipement et des transports. Vous employez quand même, j'insiste, le mot rassuré. J'étais rassuré. Pourtant, votre vie publique, ce n'est pas une course aux honneurs, de toute évidence, quand on vous lit.
Non, mais j'avais envie de faire quelque chose. Et j'ai beaucoup regretté d'être resté si peu de temps au ministère de l'Équipement. Je suis resté le temps de la campagne électorale, premier gouvernement Mauroy. C'était passionnant. En plus, il y avait une équipe de hauts fonctionnaires qui était remarquable. C'était un plaisir de travailler avec ces gens-là. Non seulement ils étaient d'une clarté, mais ils se mettaient à la portée de quelqu'un. Moi, je n'étais pas un spécialiste de l'équipement. Mitterrand m'avait dit, l'équipement, ça vous irait très bien. Vous êtes maire de Vienne, vous savez ce que c'est, les zones à construire, à pas construire, les NC, les ceci, les cela. Oui, mais enfin, entre ça et l'équipement. Et alors, moi, j'avais tout à apprendre, l'aviation, les transports, tout ça. Bon, j'étais... Et les hauts fonctionnaires, ils avaient une façon de me mettre au courant. Ils n'essayaient pas de parler un langage que je ne comprendrais pas. Et si bien que le peu de temps, j'ai eu à faire des choses assez importantes, notamment sur les négociations Airbus qui continuaient d'avancer. Et grâce à eux, je comprenais ce que me disait, avec un interprète, le partenaire anglais ou espagnol. Bon, donc, oui, j'avais envie. J'étais rassuré parce que je me suis dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, en politique, souvent, on est obligé de donner des choses, je ne dirais pas aux adversaires, mais aux gens dont on n'est pas sûr, pour les garder. Lorsque De Gaulle, après sa mise en ballottage en 1965, s'est séparé de Giscard d'Estaing, qui était son ministre des Finances, De Gaulle a dit, il vient de commettre sa première erreur. Quand on a quelqu'un dont on se méfie, on se le garde à côté de soi et on le nomme à quelque chose pour le surveiller. Donc Mitterrand, face à ce puzzle qui était en face de lui, je me disais, il va d'abord mettre tous les gens dont il pense qu'il faut faire attention, que, etc. Puis les gens comme Hernu, comme moi, tout ça, Fillou d'ailleurs, il nous a promus. Fabius, il est tellement sûr de... il nous a quand même nommés, vous voyez, comme quoi j'étais rassuré. Bonsoir.
Alors il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc vous êtes président de l'Assemblée nationale, oui. Et vous revenez un moment sur votre mère.
Oui.
Vous écrivez « Ma mère avait suivi mon élection chez elle depuis son poste de radio et le soir à la télévision. Elle aurait été très heureuse d'y assister dans les tribunes du public. Elle ne l'avait pas demandé et je ne le lui avais pas proposé. Je ne l'ai jamais invitée non plus à assister à des débats. Vous poursuivez. Je redoutais par-dessus tout que ce qui touchait à notre intimité pût affleurer dans la vie publique. » Champ de bataille où se concentrent les jalousies et les fausses amitiés.
J'avais eu l'expérience d'un certain nombre de collègues, de bons collègues d'ailleurs, qui invitaient leurs parents. Et ça donnait lieu à des scènes assez extraordinaires. On voyait les pères et les mères qui ruisselaient de bonheur. Ah, je trouvais ça un peu ridicule, quoi. Bon, ça se comprenait. Mais on invite les parents, parce qu'on a été élus députés, puis alors les parents ne peuvent pas s'empêcher d'embrasser... Non, mais on n'aurait pas fait ça. Non, ça, j'en suis sûr. Mais étaler le bonheur, l'émotion, etc., de sa mère, pour d'autres, de son père, etc., comme ça, je trouvais qu'il y avait une certaine impudeur, quoi. Donc, je préférais cette réserve. D'ailleurs, ma mère a assisté par mon père à des séances extraordinaires. Elle a écrit des cahiers que je vais faire publier, qui sont très remarquables. Et elle relate notamment cette séance du 11 novembre 1918, où elle assiste des galeries du public au discours de Georges Clemenceau annonçant l'armistice. C'est un souvenir extraordinaire pour elle. Je suis très ému quand j'y repense.
Alors les années passent, on se rapproche tout doucement de... Second mandat de François Mitterrand, vous êtes ministre de l'Agriculture pendant 2 ans. À vous lire, on a l'impression que ce ministère demande une énergie colossale, en même temps qu'une parfaite connaissance des dossiers. Un ministère politique, technique, sans oublier bien sûr la dimension humaine, qui est peut-être la plus importante, sûrement, la dimension européenne, et puis la vision prospective, l'avenir de l'agriculture. C'est compliqué, non ?
Ça va vous faire sourire, mais au temps de l'UDSR... Avant 1958, j'étais le spécialiste des questions agricoles à l'UDSR. Parce qu'il n'y avait pas tellement de gens qui avaient envie à l'UDSR de s'occuper d'agriculture, puis parler de l'agriculture à Paris. Bon, et j'avais été chargé, j'étais tout le temps chargé des rapports sur l'agriculture. C'est peut-être parce qu'à ce moment-là, j'étais implanté, comme on dit, dans l'Orne. Donc j'ai toujours suivi de très près l'agriculture. Et quand j'étais député de l'Isère, j'ai manqué aucune réunion des syndicats agricoles, de la FNSEA. Je me souviens de réunions de la FNSEA extraordinaires. Où on avait le président des syndicats qui interpellait le préfet Jeannin, justement, et qui lui disait « Oui,
on nous propose la concertation. C'est la concertation du charcutier et de son cochon. C'est ça la verdeur du langage paysan. C'est extraordinaire. Le préfet, il ne savait plus quoi dire devant des choses pareilles. Donc, moi, j'ai été passionné par ces 2 ans de ministère de l'Agriculture. Et je me suis très bien entendu avec les paysans, tout le temps. Le président Lacombe était un bonhomme extraordinaire. Il avait ce côté madré du paysan français. Mais il était authentique, il était formidable. Je n'ai été chahuté qu'une seule fois. J'ai un peu provoqué, c'était au congrès des jeunes agriculteurs à jouer les tours près de Tours, parce que je devais partir très rapidement pour un voyage en Algérie. Et j'avais rendez-vous avec Rosalie, à l'époque le premier ministre algérien, c'était en 92, à Alger, à midi et demi. Et j'étais là, à Tours, avec un avion évidemment rapide, un mystère, etc., qui allait m'amener rapidement, mais enfin il fallait quand même être à l'heure. Et les paysans, les jeunes agriculteurs, c'était Jacob le président. Christian Jacob, qui n'est pas un mauvais cheval. Enfin bon, j'aimerais mieux qu'il ne soit pas à l'UMP. Ben, il est dans son rôle, il est brutal, il est comme il aime. Enfin, sur le plan humain, ce n'est pas un mauvais bonhomme. Ben, il est réactionnaire, oui, ben, ça, il n'est pas le seul. Et alors, c'est lui qui présidait Christian Jacob. Et alors, il ne voulait absolument pas que je parte. Et alors, moi, j'avais répondu à leurs questions, etc. Et puis, je leur dis brusquement, écoutez, je dois être reçu par le Premier ministre algérien dans 1h30. Alors vous pensez, je ne vais pas dire les réflexions que je pouvais entendre, je les plantais pour aller en Algérie, c'était pas tout à fait le genre de gens qui étaient pour la coopération franco-algérienne à cette époque-là. Bon, voilà, c'est tout. Alors là, ils étaient fous furieux. Et alors, j'ai voulu partir par l'allée centrale, il fallait surtout pas s'enfuir, mais je ne pouvais pas passer, ils étaient tous dans l'allée. Alors heureusement, il y avait une porte latérale, mais je suis parti très lentement, et je me vois encore en faisant des grands bonjours, pour pas avoir de fuir. Alors plus je les saluais, plus ils étaient furieux, ça hurlait. Bon, alors je suis reparti, il y avait une voiture qui m'attendait, il n'y avait pas de flics d'ailleurs, il y avait juste à la préfecture, on a essuyé quelques jets, je ne sais pas, ça devait être des pommes, des trucs comme ça. Rien de grave, ouais. Ça fait des... À part ce truc absolu, j'ai des très bons souvenirs. Ça s'est très bien passé. Oui, oui. Très, très bien. J'ai retrouvé les gens de l'Orne qui n'avaient jamais voté pour moi. Mais alors là, ils arrivaient au ministère. Je les traitais très bien.
La fin du deuxième septennat arrive.
Oui.
Le dernier conseil des ministres entre deux élections législatives.
Oui.
Qui verront la défaite des socialistes.
L'écrasement.
Un des grands moments du livre, il y en a beaucoup, à mon avis. François Mitterrand, solennel, livre sa vision de la France.
Oui.
Il est malade.
Oui.
Quand on vous lit, on est frappé 20 ans après de la modernité de son propos.
Ce qui a fait la force de Mitterrand, et c'est pourquoi il existera historiquement, c'est qu'il avait une vision. La politique, ce n'est pas seulement de prendre des mesures. Bien sûr qu'il faut prendre des mesures. Jean Mitterrand disait, il ne faut pas trop annoncer des mesures parce que chacun se dit, oh, qu'est-ce qui va nous arriver? Bon. Il faut s'occuper des problèmes catégoriels. Dès 81, il l'a fait, puisqu'immédiatement, il a bien fait augmenter le SMIC, les allocations familiales, les allocations jeunesse, etc. Il y avait une souffrance sociale qui est évidente. Mais il faut à la fois répondre, autant que faire se peut, que l'économie dominée par le capitalisme, c'est épouvantable, le permet. Mais il faut aussi que les gens... transcende, dépasse cela. Il faut rassembler un peuple sur une vision de quelque chose. Ça a été pendant longtemps pour lui la construction de l'Union française. Après, ça a été la construction de l'Europe. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traiter les problèmes durs de la société française, mais il faut entraîner vers ça. Et là, il a une vision, dans ce dernier Conseil des ministres, de ce que peut être l'avenir de la France. Et ça c'est ça qui nous a toujours marqués par la suite tous. Thank you.
Couleur FM 97.1, avec comme invité Louis Mermaz à la librairie Majolire de Bourgoin-Jallieu. Pour finir, nous avons entendu Wolfgang Amadeus Mozart. Rappelons les dates 1756-1791 dans un Allegro assai du Divertimento de l'album Une sérénade de Salzbourg sous la direction de Alexander Titov à Saint-Pétersbourg.
Combat politique, c'est dur. Ça ne fait pas de cadeau. Vous citez quelqu'un qui, tout à coup, se retrouve mis hors jeu. J'ai souvent remarqué que lorsque un homme politique sort du champ de l'action, ses collègues ne le voient plus, comme s'il s'était rétréci jusqu'à devenir invisible,
ah oui.
Sorti de l'existence. C'est terrible.
Quand Bérégovoy a connu, avec nous, la défaite de 1993, je le vois encore revenant au comité directeur suivant, en dehors de Mexando, de moi et peut-être un ou deux autres, les gens ne le regardaient plus. Mais oui, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, ami politique, ça ne veut rien dire. Oui, c'est vrai. Alors, on a des amis dans le monde politique, ça sera affreux. Par exemple, comme moi, je suis à Bourgoin-Jallieu, je vous dirais, ce n'est pas forcément des spécialistes de la politique, mais il y a des élus. Et on a plaisir à se retrouver. On peut dire, ça, c'est des vrais amis. Moi, je ne suis plus dans la politique et... Je suis content de les retrouver et j'ai l'impression qu'ils sont contents de me retrouver. Mais sinon, dans le monde politique, au niveau des députés, des sénateurs, etc., c'est incroyable de l'indifférence de seul coup. Mais il faut prendre ça aussi avec une profonde philosophie. Moi, quand je vois des gens prétentieux, etc., ou des gens indifférents... que ce soit des grands personnages ou des moyens personnages, je me dis, mais de toute façon, dans X années, on va tous être morts. Ah oui, on va tous être morts. Alors le problème, c'est le seul problème qui compte, d'ailleurs, Mitterrand ne pensait qu'à ça à la fin de sa vie, c'est qu'est-ce qui se passera après la mort. On est tous égaux devant la mort. Ces gens qui sont là, crânant, ils font comme s'ils allaient toujours être là. Il faut relativiser. Si on n'a pas ça dans la tête, la politique est une chose misérable.
Je parlais de ces moments où, dans le livre, on a l'impression qu'on est hors du temps. Et j'ai pas pu résister. Vous avez deux très belles phrases sur Venise. Revenir de Venise, c'est en revenir autre et se dire pourquoi tant de beauté, tant d'indifférence à la fuite des années, tant de charme, tant de fragilité. Se retourner sur Venise, c'est se tenir à distance des choses et des gens. Superbe.
Enfin, pas à moi de le dire, mais oui,
je le dis.
Je suis heureux quand je relis ça, non pas pour moi, mais pour Venise, enfin pour ce que j'ai connu de Venise, c'est formidable. Vous allez tous à Venise, si ce n'est fait. S'il y en a qui ne sont pas encore allés à Venise, il faut vous débrouiller pour y aller.
Mais Venise ou l'Espagne, vous voyagez beaucoup, je ne parle pas des déplacements professionnels. La Grèce, vous y allez souvent, régulièrement. C'est important de...
J'y suis plus allé en Grèce depuis 1997. Et j'ai appris la dissolution décidée par Chirac, ça a de la gueule, dans le tombeau de Clytemnestre, dans le Péloponnèse. Ça s'oublie pas, ça. Alors donc, je suis rentré, mais j'ai pas pu rentrer tout de suite parce que l'ancien ambassadeur de Grèce en France, qui est devenu un ami, que je vois toujours, etc., avait décidé d'organiser à Athènes un dîner. J'ai dû patienter 24 heures de plus avant de prendre l'avion et d'aller retrouver Josette Valla, maire des Roches de Condrieu, qui a accepté d'être ma suppléante et qui m'a beaucoup aidé dans l'élection de 97, car c'était quelqu'un qui était très, très remarquable, Josette Valla.
Pour finir, si vous permettez, je voudrais lire un extrait de l'épilogue que vous avez écrit. J'ai voulu, dans ce livre, au terme de tant d'années qui ont passé si vite, retrouver ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai rencontrés, ceux avec qui j'ai vécu et travaillé. J'ai mené avec beaucoup d'entre eux un combat, sous-tendu par l'amour inaltérable de mon pays, qui a donné un sens à ma vie. Dès les premiers temps de mon éveil à la politique, j'ai senti que je l'aimais comme on aime un être très cher, et je l'ai voulu plus fort, plus heureux.
Je n'ajouterai rien.
Moi, je vous poserai une dernière question. Alors, justement, un tel livre, il faut que je vous dise, à la veille des élections qui vont concerner tous les Français l'année prochaine, est-ce que ce n'est pas un message que vous envoyez aussi à tous les candidats, tous ceux qui se présenteraient, sur la vie politique, ce qu'elle est, ce qu'elle peut vous apporter comme bonheur et...
Votre question m'embarrasse, parce que j'ai commencé ce livre en août 2002. Donc je l'ai écrit en 11 ans. J'avais des activités, je ne pouvais pas écrire uniquement le livre, mais chaque matin, possible, j'écrivais une page, deux pages, trois pages. Donc je ne pensais pas forcément aux élections de 2014. Ceci dit, les élections de 2014, c'est important, les européennes, c'est important. Et ce qu'il faut surtout, c'est que les Français... pense que la France, Hollande le dit très bien, c'est un grand pays, la France. Donc il ne faut pas s'abandonner à des sortes de passions, qu'on ne veut même pas appeler des passions, des fureurs. Je comprends des déceptions, des souffrances, etc. Mais il ne faut pas s'abandonner à l'abstention. Car le plus dangereux aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de républicains authentiques, à gauche mais aussi à droite. Il y a des républicains authentiques à droite. Et à partir du moment où vous n'êtes pas pour le parti unique, il faut bien accepter qu'il y ait une gauche et une droite. Bon, il y a des républicains des deux côtés. Et si ceux-là, parce qu'ils sont déçus de ce qui s'est passé avant ou de ce qui se passe en ce moment, restent chez eux, alors on va où? Et je crois que l'important, c'est de leur dire « Soyez dignes de la France ». Et la façon d'être digne de la France, c'est de commencer par aller voter.
Merci Louis Mermaz, merci Dominique, Véronique, et puis merci Dan et Laurent.
Et merci Titane.
À la semaine prochaine.
Bye bye.
Au revoir, merci.